La pédagogie de Maria Montessori se répand, la preuve aujourd'hui avec la création d'une nouvelle école dans notre région.
Dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, on compte une dizaine d'écoles se revendiquant de la pédagogie Montessori. Une petite nouvelle, non pas se revendiquant, mais une vraie qui est vraiment, selon la pédagogie de Maria Montessori, va s'y ajouter. Elle a pour nom la Violette Toulousaine. Son directeur est l'invité de Radio Présence, Florentin Arnaud. Bonjour.
Bonjour madame.
Aujourd'hui, environ 400 écoles revendiquent employer la méthode Montessori en France, mais 200 sont vraiment membres de l'association Montessori de France, l'AMF. La présidente de l'AMF, Nadia Hamidi, lit le développement de ces écoles à l'avènement des neurosciences. Qu'est-ce que vous pensez de ce lien ?
Je pense que depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'études. On essaye de changer de paradigme sur l'éducation. Et je pense qu'effectivement, il y a bien sûr un lien à faire entre les deux.
Cette pédagogie est née de Maria Montessori, psychiatre italienne du début du XXe siècle. Qu'a-t-elle précisément découvert ?
Alors, elle a découvert déjà les phases de développement de l'enfant. Et ça, c'est très important, c'est essentiel. Les enfants sont regroupés par tranches d'âge, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15. Et à l'intérieur de ces environnements, de ces environnements préparés, on va avoir du matériel différent selon le type d'âge qui vont développer telle ou telle compétence.
Et dans ces phases de développement, finalement, vous allez accompagner les enfants qui sont dans la première phase de développement, les 3-6 ans. Comment vous pouvez après imaginer, est-ce que ce qu'ils vont recevoir dans cette première phase, ça va leur servir ou est-ce que ça va être suffisant pour la suite de leur scolarité ?
Alors, dans la première phase, ce qui va être très important, ça va être tout le travail, surtout de motricité fine. Et surtout les choses de la vie normale, mettre ses chaussures, etc. L'objectif, c'est d'axer sur l'autonomie de l'enfant. Cette autonomie, elle va rester tout au long de la scolarité. Et bien évidemment, nous respectons le socle commun de connaissances et de compétences imposé par le rectorat.
Oui, évidemment, vous n'êtes pas hors sol. Alors, Maria Montessori, elle avait quand même compris... elle avait beaucoup observé les enfants. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce constat qu'elle avait fait ?
L'observation, il est essentiel. Déjà pour pouvoir regarder l'avancée individuelle de chaque enfant. Et dans la pédagogie Montessori, il faut apprendre à observer l'enfant. On dit que ce n'est pas l'enseignant qui va être le guide, mais plutôt l'enfant lui-même.
Et alors, ça se passe comment, concrètement ?
Concrètement, c'est savoir se faire oublier de l'environnement.
En tant qu'enseignant, vous voulez dire ?
Tout à fait, en tant qu'enseignant, ou même en tant que directeur. Il faut savoir que le directeur vient parfois faire des observations. On invite parfois les parents à venir faire des observations, parce que c'est très, très, très important qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de leur enfant. Tel ou tel acte ne veut pas forcément dire toujours la même chose, selon l'enfant.
Et il faut donner quand même des clés de compréhension, parce que observer ne suffit pas.
Oui, il y a évidemment toute la théorie à apprendre qui a une place très importante. Et cette théorie, on l'applique toujours avec du temps d'observation.
D'accord. Alors, vous avez parlé de ce premier axe de développement qui est cette première tranche d'âge avec la possibilité de devenir autonome, faire ses lacets, manipuler la motricité fine. Quelle est la deuxième phase ?
La deuxième phase, ça va être davantage poussé sur des catégories académiques, j'ai envie de dire. Apprendre à compter, apprendre à lire. Les enfants, à partir de... selon l'enfant, bien sûr, tout enfant est différent. Mais de 3 à 6 ans, on va très vite être porté vers la lecture, les mathématiques, la culture, de manière générale. Notamment tout ce qui est géographie.
D'accord, donc la géographie, vous commencez déjà à partir de 6 ans ?
Oui, à partir même de 3 ans. C'est-à-dire qu'on travaille avec du matériel Montessori, des maps monde, un puzzle. Et dans notre école, les enfants viennent d'un peu partout. C'est vrai qu'on est une école plutôt posé sur l'international. On avait en tout cas tous les continents de représentés. Et chaque enfant venait amener un peu de sa culture dans la classe. Et ça, ça intéresse vraiment tous les enfants qui vont vouloir savoir d'où vient-il, etc. Et donc, on commence déjà la géographie à cet âge-là.
D'accord. Vous parlez de manipulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe une séance Montessori ?
Oui. Alors déjà, une séance Montessori, c'est dans un environnement préparé. Dans lequel on peut retrouver 5 R. Il va y avoir l'R de la vie sensorielle, de la vie pratique, des mathématiques, du langage du français et de la culture. Donc il faut bien visualiser une classe comme un espace entouré de ces 5 R, dans lequel les enfants peuvent prendre un tapis, un petit tapis Montessori, aller chercher leur activité. L'activité, ils peuvent venir la chercher librement. Ils vont passer du temps sur leur activité. Quand ils ont fini, ils vont la rapporter sur l'air qui correspond.
Est-ce qu'un enfant choisit des activités de façon à ce que ses activités tournent, ou est-ce qu'il a une appétence pour toujours les mêmes ? Et alors, dans ce cas, comment faites-vous pour remplir un programme ?
Alors, un enfant qui a une appétence toujours pour la même chose, c'est qu'il n'a pas terminé avec ce matériel-là. Et tant qu'il n'a pas terminé, il va continuer pour continuer d'apprendre. Voilà, c'est très important de laisser l'enfant agir librement, mais bien évidemment, l'éducatrice sera amenée à un moment ou à un autre, si l'enfant arrive à toujours aller vers le même matériel, à le diriger et l'intéresser vers d'autres matériels. Mais c'est quelque chose qu'on voit vraiment très peu. Les enfants, ils voient du matériel, ils ont envie de tout essayer. On voit plutôt l'inverse. Nous, on modère un peu les choses. C'est-à-dire que l'enfant peut aller vers des activités qui lui ont déjà été préparées. L'objectif, c'est vraiment que l'éducatrice et l'assistante de l'éducatrice identifient bien que l'enfant fasse avec cet objet ce pourquoi il a été créé. Oui. Et que l'objet ne soit pas détourné pour autre chose. Voilà, ça c'est très important.
Et puis qu'il aille au bout de cette activité, parce qu'il peut y avoir une tentation de papillonnage et finalement de passer d'une activité à l'autre sans vraiment développer l'apprentissage.
Alors, dans la pédagogie Montessori, le papillonnage, entre guillemets, c'est plutôt de l'observation. Un enfant peut passer une demi-journée à observer les autres enfants sans rien faire. Et en restant sage, sans rien faire, mis à part observer. En fait, dans l'observation, on apprend déjà.
Et oui, bien sûr. Oui, on apprend déjà. Dans un article du Figaro du 13 mars dernier, Catherine Lécuyer, qui est auteure d'une thèse sur Maria Montessori, met en avant l'importance de la liberté et du choix dans la méthode. Vous l'évoquiez, Florentin Arnaud. Comment vous articulez, évidemment, cette liberté avec la nécessaire tenue d'une classe et puis l'autorité de l'enseignant, quand même ?
Oui, alors la liberté, elle est très très importante. L'enfant dans la classe est libre. Il est libre dans un cadre. Il y a trois règles à respecter. C'est le respect du matériel, qui est très important, le respect de ses camarades et le respect des adultes autour de l'école. Au-delà de ce cadre, l'enfant va agir, on va dire, dans un mode d'auto-correction.
C'est-à-dire ?
Ben, les enfants entre eux vont bien sûr interagir entre eux. Si un enfant dépasse les limites que lui sont imposées par les autres camarades, alors dans ce cas, il intervient. Voilà.
Mais il intervient de quelle manière ?
Il va lui expliquer, il va lui dire. Nous, on est là pour vérifier que les conflits, on va dire, ne prennent pas trop de place. Mais les enfants sont là pour vivre en société, donc apprendre de la même manière que pour tout, par l'acte, par être en communauté avec les autres.
Parce qu'on lit quand même un certain nombre d'articles qui disent que parfois c'est un peu la pagaille dans ces établissements. Il y avait un article de France Info en 2019 qui évoquait une atmosphère de cours de récréation permanente. Certains parents déploraient un manque d'encadrement. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux parents qui pourraient être inquiets? Ils pourraient se dire, ouh là là, mais est-ce que je vais vraiment mettre mon enfant dans cet établissement?
Alors, sachez déjà que dans la plupart des établissements Montessori et dans le nôtre, on invite les parents, avant l'inscription, à venir voir comment cela se passe dans notre école. Donc, du moment où les parents s'inscrivent, ils savent ce qui s'y passe. Et ça, c'est très, très important. Voir, regarder une classe Montessori sans avoir, sans connaître les principes, sans connaître le fonctionnement, ni voir les avancées que font les enfants, c'est, on va dire... j'ai pas de terme adéquat, mais c'est effectivement, on peut pas avoir une lecture, une bonne lecture de la situation.
Ouais, c'est ça. Et est-ce que les parents doivent être nécessairement formés à la pédagogie Montessori pour accompagner leur enfant en dehors de l'école?
Alors je le pense, de manière très prononcée. Nous-mêmes, nous allons monter un centre de formation Montessori qui sera aussi à destination des parents, même si ça ira beaucoup plus loin. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture, on va dire, entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. C'est très important que les parents sachent pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et qu'ils puissent continuer d'appliquer ça chez eux. Chez nous, quand un enfant, on va dire, sort du cadre, on va l'amener à réfléchir. Ensuite, on va essayer d'avoir une restitution. Bon, si à la maison, il se fait crier dessus, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, l'enfant ne comprend pas.
Est-ce qu'il faut nécessairement que le matériel que vous utilisez en classe soit le même que celui qui est à la maison ? Parce que c'est quand même une certaine contrainte.
Alors, moi, ce que je pense, c'est que les parents ne sont pas éducateurs. Donc, à partir de là, il y a plein d'autres choses à faire avec ces enfants. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la peinture, aller dans les musées, etc. Travailler avec du matériel Montessori, c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas forcément nécessaire.
Donc, pour vous, les parents n'ont pas cette mission d'éducation ? Ou est-ce qu'ils la partagent avec l'école ?
Ils ont une autre mission d'éducation.
Ah, une autre mission d'éducation.
Tout à fait.
D'accord.
Qui vont être dans la transmission de valeurs, dans la transmission culturelle. Et c'est aussi important que ce qui se passe dans l'école.
Mmh. Vous avez eu, Florentin Arnaud, un parcours un peu atypique. Vous en avez témoigné dans une vidéo sur le site Créer son école. Et vous avez dit ce qui m'a manqué dans ma scolarité, c'est d'être autonome. Et dans la pédagogie Montessori, c'est le point central du projet. Est-ce que vous allez accueillir tout type d'enfants dans votre école de la Violette toulousaine, ou est-ce que il va y avoir des spécificités, des priorités pour certains enfants ?
Non, absolument tous les enfants seront acceptés dans notre école. Il n'y aura pas de sélection. On va dire que la sélection se fera par ordre chronologique. Hein, lorsqu'on n'a plus de place, on ne prend plus d'enfants. Mais c'est très important d'avoir des enfants qui viennent de milieux différents, des enfants qui viennent de cultures différentes. Et effectivement, on peut avoir des enfants avec certains problèmes et d'autres qui ont plus de facilité. Et ce groupe qui est, on va dire, hétérogène va augmenter l'effet bénéfique de notre école sur l'ensemble des enfants.
Vous limitez l'effectif classe à combien d'élèves ?
Alors ça, c'est un très grand sujet parce que... on va dire qu'aujourd'hui, on va limiter par rapport à la capacité des mètres carrés de l'ambiance. C'est ça qui est le plus important. Mais Maria Montessori disait qu'il fallait vraiment un certain nombre d'enfants pour que la classe puisse fonctionner.
Et donc, c'est quoi un certain nombre d'enfants ? Ça représente
un certain nombre d'enfants.
C'est une vingtaine, une trentaine ?
Ça devait être une trentaine, même au-delà. Voilà.
Mais pas pour l'école, mais pas forcément par classe.
Par classe, par ambiance.
Classe. Ah oui,
il faut voir les classes comme de grands espaces, des ambiances qui sont... voilà. Mais le problème, effectivement, c'est que parfois, on se heurte au problème matériel, c'est-à-dire à la possibilité de faire ces grands environnements. Oui. Et dans ces cas-là, on réduit le nombre d'enfants.
D'accord.
Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'avoir, on va dire, d'avoir un nombre identique d'enfants, quasi identique, 3, 4, 5, parce que ça permet du coup une émulation supplémentaire.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, un des freins à l'inscription, c'est le coût de ce type d'école. Quelles aides sont proposées aux familles ?
Tout à fait. Alors, avant de parler des aides proposées aux familles, faisons le tour des aides proposées aux écoles.
Oui,
c'est fini.
D'accord, il n'y en a pas.
Bon. Voilà, il n'y a pas d'aide pour les écoles.
Parce que ce sont des écoles hors contrat.
Voilà, tout à fait. Ce sont des écoles qui sont hors contrat. Et le coût de l'école est fixé en fonction du nombre de salariés, qui est souvent plus élevé que dans une école traditionnelle, et le coût du matériel. Il faut savoir que le matériel, pour notre cas, le matériel, c'est du matériel qui est certifié AMI. C'est très important pour nous. AMI, pardon, Association Montessori Internationale. D'accord. Et effectivement, cela revient... On reporte, on va dire, nos coûts sur les...
Et alors, comment faites-vous, là, en deux secondes, pour nous dire, pour les parents qui voudraient inscrire leurs enfants et qui trouvent que c'est un peu cher ? Il y a des aides proposées, notamment par l'association Créer son école pour,
on va, oui, alors voilà, c'est ça. On se penche aujourd'hui sur une politique sociale, notamment avec la fondation Kairos. C'est une première piste. Il y a la deuxième piste qui serait de pouvoir établir un prix sur le revenu des parents. Mais ça reste quand même un petit peu compliqué pour l'instant, à une ouverture de le faire.
Ah oui, c'est ça. Oui. Alors cette ouverture, elle est prévue pour la rentrée. La Violette Toulousaine, elle est donc fondée sur la pédagogie Montessori. Et donc Florentin Arnaud, vous êtes le directeur et vous attendez donc, vous faites appel aux parents pour réinscrire leurs enfants. Merci beaucoup.
Merci.